BW. Droits et libertés.
Burkina Faso, Cameroun, RDC, Mali, Niger, Honduras, Soudan du Sud, République centrafricaine, Tchad et Soudan. Est-ce que vous connaissez le point commun entre tous ces pays ? Vous l'aurez noté au passage, sur les 10, 9 se trouvent en Afrique, dont 7 en Afrique francophone. Eh bien, leur point commun, c'est de figurer dans le classement des conflits les plus négligés au monde, classement établi chaque année par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Ce que cela signifie concrètement, quand une guerre est oubliée ou presque par le reste de l'humanité, c'est ce dont nous parlons avec notre invitée de cette semaine, Marine Olivesi, qui est chargée de plaidoyer au sein de cette ONG du NRC pour le Burkina Faso. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. Avant de retrouver notre invité, cependant, je tenais à donner la parole aussi à des femmes déplacées internes. Leur voix, vous les avez peut-être déjà entendues il y a quelques jours sur notre antenne. Elles s'appellent Hawa Mama et Kirisi Sawadogo et vivent désormais, ou survivent plutôt, dans un camp près de la ville burkinabé de Dori, située dans le nord-est du pays, dans la région du Sahel. Pour rester en vie, ces femmes ont dû fuir les violences dans leur village d'origine, pris en étau entre l'armée et certains groupes armés djihadistes.
Même si c'est difficile ici, là-bas c'est pire. On n'a pas d'autre choix que de rester ici. On n'a plus rien là-bas. On est venu ici, on est obligé de rester dans ces conditions.
C'est à cause de la situation dans le pays, ils sont venus dans notre village, ils nous ont menacés, ils ont volé notre bétail, ils ont tué des gens. C'est pour cela que l'on a dû fuir et qu'on est arrivé ici.
Ces témoignages de ces deux femmes sont emblématiques de la souffrance endurée par des millions de civils pris dans des guerres qui souvent ne sont pas les leurs. Or, tous les conflits du monde n'attirent pas au même degré l'attention des médias, ni des responsables politiques, ni même des donateurs. Et quand un pays ou une région en crise est oublié, le Conseil norvégien des réfugiés écrit qu'il tombe dans le cercle vicieux de la négligence. Le NRC, qui écrit encore dans son dernier rapport, je cite, « La plupart des crises humanitaires actuelles sont de nature prolongée et impliquent de multiples crises parallèles. Dans tous les pays étudiés dans ce rapport, la combinaison désastreuse de conflits et de violences, de tensions intercommunautaires, de déplacements et de catastrophes récurrentes induites par le changement climatique rend les besoins humanitaires d'autant plus importants. » Pour discuter de ces conflits négligés, nous nous entretenons cette semaine avec Marine Olivesi, chargée de plaidoyer au Conseil norvégien des réfugiés pour le Burkina Faso. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait encore des conflits qui soient délaissés plutôt que d'autres ?
L'attention qui est apportée pour certains conflits dépasse largement l'attention qui est portée pour d'autres. Quelque chose qui est assez récurrent d'une année sur l'autre dans ce rapport des crises négligées, c'est qu'on voit quand même une prédominance des crises de déplacement qui ont lieu en Afrique spécifiquement, qui apparaissent très souvent dans le top 10. Cette année, 9 crises de déplacement les plus négligées au monde sur 10 sont en Afrique. 7 sur 10 sont en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale en particulier. Et les crises de déplacement au Sahel central, Burkina, Mali, Niger, font partie du top 5 pour la première fois aussi. Donc il y a des pays dans lesquels la mobilisation des ressources financières, la mobilisation politique et diplomatique, la mobilisation médiatique pour certaines crises est bien moindre que pour d'autres. Et nous essayons avec ce rapport justement de changer un petit peu la tendance en portant un certain focus sur justement ces pays qui sont d'habitude négligés.
Mais alors quand vous dites qu'ils sont négligés par la diplomatie, la politique, ouais, les médias, c'est-à-dire en dehors des pays même, ou est-ce qu'il y a aussi un manque d'action à l'intérieur même des pays concernés ?
Alors là, on parle vraiment de l'attention internationale au sens large. C'est-à-dire qu'on voit les disparités d'attention médiatique, mais aussi d'attention financière. On regarde notamment quel est le pourcentage de financement du plan de réponse humanitaire dans chacun de ces pays l'an dernier. Au Burkina, par exemple, un peu moins de 40% de l'argent qui était requis pour couvrir les besoins vitaux a été effectivement mis sur la table et était disponible. Et enfin, on regarde la mobilisation politique et internationale, à savoir, est-ce qu'il y a eu des résolutions au niveau des Nations Unies, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des conférences pour la paix qui ont été organisées? Est-ce qu'il y a eu des initiatives particulières? Et on se rend compte que au niveau des pays du Sahel central, par exemple, il y a très peu d'initiatives, très peu d'engagement diplomatique à l'heure actuelle. Donc c'est une combinaison de facteurs médiatiques, financiers, politiques qui nous permet de classer en quelque sorte les pays dont la crise de déplacement est la plus négligée au monde. Et donc le déficit de financement ne fait que de s'aggraver d'une année sur l'autre, laissant plus de personnes dans le besoin.
Oui, c'est ça, ça a des répercussions en fait très très concrètes, ce manque d'intérêt international.
Tout à fait, ça a des répercussions très concrètes sur le terrain. Je prends l'exemple de la ville de Djibo, qui est une ville sous blocus depuis plus de 2 ans maintenant, au nord du Burkina Faso, où près de 300,000 personnes vivent. À Djibo, depuis plus de 2 ans donc de blocus, trouver à manger, trouver à boire, est un défi quotidien pour les populations qui n'ont pas la liberté d'aller et venir à leur guise parce qu'il y a des interdictions de mouvement sur ces populations et donc qui sont bloquées dans la ville de Djibo. Sauf que la population de cette ville a explosé ces dernières années du fait de l'afflux des populations déplacées dans la ville. Et il n'y a pas assez d'eau, les infrastructures en eau, qui étaient déjà peut-être pas complètement opérationnelles avant, ne sont largement pas suffisantes pour répondre à ce besoin vital des populations. Donc ce que font les acteurs humanitaires, ce qu'ils ont dû faire depuis 2019 à peu près à Djibo, c'est organiser du water trucking, c'est-à-dire qu'on prend de l'eau dans des points d'eau qui sont à peu près opérationnels et on les amène avec des camions dans les sites de déplacement dans la ville. Sauf que c'est une méthode d'apporter de l'eau aux populations qui n'est pas du tout viable sur le moyen et long terme, mais il était très compliqué de trouver d'autres solutions pour apporter de l'eau parce que tout acheminement, par exemple, de matériel de forage ou quoi que ce soit qui permette de vraiment construire de nouveaux puits, eh ben, avec les difficultés notamment d'accès vers la ville à l'heure actuelle, c'est impossible. Et donc, on se retrouve dans des situations parfois, par exemple en 2023, où même le water trucking n'était plus possible parce qu'il n'y avait plus d'essence. Donc, des acteurs humanitaires comme nous, par exemple, ont dû se tourner vers une solution complètement insoutenable sur le moyen et long terme, à savoir transporter par hélicoptère de l'essence vers Djibo afin de faire marcher les camions-citernes. Là, évidemment, on se rend compte à quel point la situation, quand on arrive à ce genre de solution qui, financièrement, de façon au niveau l'impact environnemental, est très mauvaise, mais qui est la seule solution identifiée pour continuer à apporter de l'eau à des populations qui vivent, il y a 10 jours, il faisait 42, 43 degrés, ce qui est standard à cette époque de l'année à Djibo. L'eau est essentielle, évidemment. Alors, nous sommes parvenus, au fil des mois, à envisager un système bien meilleur et beaucoup plus viable pour les populations avec des pompes à énergie solaire, en fait, qui permettent d'accroître le débit de certains de ces points d'eau et de transporter l'eau par des canalisations. Donc, évidemment, on a réussi à mettre en place une solution bien meilleure, mais ce genre de solution est très, très coûteuse. Et avec le désengagement, notamment, des bailleurs de financement, de développement dans la région du Sahel, et avec un taux quand même qui reste très bas de financement de réponse humanitaire, eh bien, ce genre de projet qui devrait être décuplé, qui devrait être mis en place dans beaucoup d'autres des localités qui souffrent de problématiques très similaires, eh bien, on a des arbitrages à faire et on ne peut malheureusement pas les conduire partout où les populations en auraient besoin.
Une des pistes pour remédier à ce sous-financement, notamment au niveau international, que vous évoquez dans le rapport, ce serait de taxer des bénéfices des grandes entreprises de haute technologie, des GAFA.
Ça fait partie de certaines des solutions qui peuvent être envisagées. On sait qu'il est possible de trouver l'argent quand on veut le faire. C'est plutôt une question de volonté politique qu'une question de manque d'argent au sens large. On se rend compte, par exemple, au Burkina Faso, que la réponse humanitaire l'année dernière, l'argent qui était mis sur la table par les pays donateurs ne représentait que le tiers de l'argent qu'a dépensé la Côte d'Ivoire pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. On se rend compte que c'est des quantités d'argent qui, somme toute, même si sur le papier, on a l'impression que ça représente beaucoup, quand il y a une mobilisation politique, quand il y a un engagement politique, on trouve des solutions. La réponse, par exemple, humanitaire apportée au moment de la crise en Ukraine nous montre que quand il y a une volonté politique, des financements peuvent être trouvés, des financements sont possibles. Ça devrait être la norme, ça ne devrait pas être l'exception. Et le même niveau de mobilisation, de solidarité devrait être enclenché pour répondre à d'autres crises, même quand elles ont lieu dans des pays beaucoup plus reculés. Et là, en l'occurrence, des pays en Afrique qui reçoivent clairement beaucoup moins d'attention qu'elles ne devraient.
Et puisque vous connaissez bien le Burkina Faso notamment, il y a aussi une mobilisation assez faible au niveau sous-régional et surtout continental, non, pour venir en aide à ces populations?
Alors ça, c'est dans la façon dont l'architecture humanitaire et les pays donateurs traditionnellement se trouvent de façon majoritaire en Europe, en Afrique du Nord, ce qui ne devrait pas nécessairement être le cas. Et c'est aussi à nous de mobiliser des nouveaux pays donateurs. On sait qu'il y en a qui émergent dans les pays du Golfe, par exemple, ou qui étaient des pays qui étaient peu impliqués dans les financements de réponses humanitaires ou dans les financements de projets de développement et qui montrent beaucoup plus d'intérêt à financer certains de ces projets. Donc, il peut y avoir évidemment une solidarité aussi au sein même de l'Afrique avec d'autres blocs régionaux qui devraient être développés, parce qu'on se rend compte que clairement, au niveau, notation pas simplement de l'Union européenne, malgré certains efforts, cet argent ne suffit pas à arriver à un financement complet des réponses humanitaires dans certains pays. Et donc, trouver des nouveaux bailleurs de financement non traditionnels, peut-être, est nécessaire à l'heure actuelle pour que cet effort-là soit l'effort, un effort de solidarité collective.
Marine Olivesi, merci.
Merci à vous. Yeah, 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 la. Yeah, 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 la. What is that up for? How come he don't know like me? What the hell they fighting for? Not a man with the blame ring his brother apart, but he do not know. You can't rule another's heart. You can't get a love alone.
C'est la fin de ce magazine. Merci à vous. Merci à Marine Olivesi du Conseil norvégien pour les réfugiés. Pour podcaster Droits et Libertés, allez sur notre site internet tw.com/français ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.